le peintre et le sculpteur viennent de découvrir à nouveau que la science est pour eux une source capitale d'inspiration, la principale peut-être. Chimie, physique et mathématiques s'offrent de nos jours à l'homme des formes. Cet homme découvre des matériaux nouveaux, matière, force, pensée. Et le monologue du peintre de 1963 est toujours le même. Il commence toujours à peu près par « Je faisais de l'art dit abstrait, j'étais dans une impasse, je me suis donc dirigé ailleurs. » La démarche de Philippe Muel n'est pas différente lorsqu'elle se dessine. En 1963, le peintre ou le sculpteur, lorsqu'il parle de son matériau, ne met plus l'accent sur la peinture ou sur la sculpture. La cloison s'effondre. Elle n'est plus constituée que par le mur qui, dans les salons, tous officiels désormais, sépare les salles de peinture et les salles de sculpture. La continuité des propos des peintres actuels, la cohérence de ces propos, leur unité, tout cela ne montre-t-il pas que, loin d'être dans une impasse, les arts plastiques voient s'ouvrir devant eux un champ illimité? Philippe Muel, comment êtes-vous parvenu à vos recherches actuelles et quelles sont ces recherches?
J'avais commencé à faire une peinture, je vous disais, une peinture graphique. Puis j'ai trouvé une matière, c'était le polyester, c'est une matière toute nouvelle à ce moment-là, qui était extrêmement commode parce qu'elle durcissait très vite et qu'on pouvait, si vous voulez, mettre du noir sur du rouge sur du noir, du blanc sur le noir, à 10 minutes d'intervalle. Puis alors un jour, j'ai découvert que cette matière était une matière, elle n'était pas une couleur simplement commode. Alors, découvrant que c'était une matière, j'ai commencé à faire des essais qui consistaient à la faire se mélanger, couler, s'enfoncer à l'intérieur d'elle-même. Si vous voulez, vous avez une tache noire, une tache rouge, vous faites filer les deux l'une dans l'autre. Et puis qu'après tout, c'était assez passionnant. Alors ça, pour moi, c'était très important parce que le fait que la matière coule ou se mélange, d'abord, ça introduisait des choses curieuses, des tensions superficielles, c'est des espèces de dispersions de couleurs. Alors pour moi, c'était important dans la mesure où il y avait quelque chose qui se passait en face de moi et dans quoi j'intervenais, au lieu de faire directement la chose, si vous voulez. Puis alors, c'était pas tellement satisfaisant, d'abord parce que c'était limité au point de vue dimension. Et puis ensuite, on souvent tombait dans des effets qui ressemblaient à de la céramique, vous savez, ces vases dégoulinants, c'était pas tellement extraordinaire. J'avais un ami qui faisait des essais assez étrange. Il voulait essayer de fabriquer des moules mobiles. Alors pour ça, il utilisait du caoutchouc qui gonflait, qui dégonflait. Il s'agissait d'essayer d'obtenir une forme variable pour certains usages, enfin, peu importe. Une fois, il m'a passé un morceau de ce caoutchouc et j'ai eu l'idée de le tendre sur une limite. Puis ensuite, d'enfoncer un doigt dedans. Imaginez qu'entre nous, nous ayons une feuille tendue sur des limites, mettons qu'elle soit carrée, moi j'enfonce mon doigt d'un côté, vous de l'autre. On obtient un volume extrêmement compliqué, mais très pur d'aspect. Et nos deux doigts, en tant que doigts, comptent très peu, ils ne comptent qu'en tant que points. Ce sont d'ailleurs des volumes assez curieux, je crois que ce sont des surfaces minima, c'est définissable mathématiquement. Alors, de là à compliquer, c'est assez simple, on a chacun 10 doigts, hein, on les enfonce, on les recule dans tous les sens, et on obtient des formes extrêmement complexes. Alors partant de là, il s'est formé une équipe. Il y avait le garçon dont je parlais tout à l'heure là, qui avait pensé à ses moules, puis un architecte, il s'appelle Génier, l'autre Kowalski. Et on a commencé à travailler ensemble sur ces formes en tension. Alors tout d'abord, elles se sont divisées en deux types. Et il y avait les formes où on exerçait une pression mécanique sur une feuille, et d'autre part, les formes qu'on obtenait en, si vous voulez, pour expliquer clairement, on prend un sac de caoutchouc, on le remplit d'eau, et puis on l'empêche de prendre une forme d'outre. Alors, à travailler ces deux types de formes. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est tout à fait différent. Une sculpture classique peut se définir par la pesanteur. Elle pèse lourd, elle est posée. Si on creuse dedans, on enlève du poids, on fait des trous. Si on fait trop de trous, elle s'effondre. Tandis que là, il n'est pas question de pesanteur. Il s'agit simplement, d'une part, de la feuille de caoutchouc, qu'on peut très bien assimiler à un champ, et d'autre part, d'énergie exercée sur ce champ pour le déformer. Et il y a d'ailleurs un moment où j'ai essayé de faire des expériences basées sur l'utilisation de champs électromagnétiques. D'abord, il fallait obtenir des champs. Alors ça, ça n'a pas été possible parce que moi, j'ai été voir de grosses industries électromécaniques. Bah, ils n'ont pas eu tellement envie, au fond, de dépenser énormément d'argent pour faire ces expériences. Et alors, à l'intérieur de ces champs, il en aurait fallu plusieurs. Et faire des interférences de champs, puis trouver une matière chargée d'une poudre métallique qui puisse se placer dans ce champ, durcir, et ensuite on interrompt le courant et reste quelque chose du champ. En fait, ça n'a rien donné. Alors, pour en revenir au caoutchouc, on a travaillé à trois, à ce moment-là, extrêmement sérieusement sur cette affaire de caoutchouc.
Mais soit cette membrane déformée, il me semble qu'il y a un intérêt à en retenir une trace.
Justement, il faut la mouler. Alors, toutes les intentions de poussée, de traction qu'on exerce sur la membrane, on les bloque par un petit système de bricolage, si vous voulez. Et puis ensuite, eh bien, on prend une matière quelconque, du plat, du ciment, du plastique. On moule la feuille, et puis ensuite, on démoule la feuille.
Vous le laissez en l'état, c'est la couleur du plâtre qui apparaît ou...
Oh ben ça n'a pas d'importance, si vous voulez. Ce qui est important, c'est, enfin, à mon avis, c'est la forme qu'on a obtenue avec le champ. Après, évidemment, il faut bien garder une trace, alors il faut le mouler. Et ça, ben, c'est plutôt un malheur qu'autre chose. Alors, si on imagine un champ d'antigravitation, par exemple, on pourrait très bien obtenir, peut-être par des interférences, une forme qui se ferait directement.
L'idéal serait de garder la membrane, les déformations de la membrane, et que cette membrane, peut-être, soit en déformation constante.
Je suppose à faire des choses mobiles.
Je suppose que vous l'avez envisagé.
Ah, on en a fait des choses mobiles, oui. C'est curieux. Je ne peux pas dire que ça me satisfasse complètement, les choses mobiles. Ça, j'aurais du mal à vous dire pourquoi.
Pourriez-vous décrire le dispositif que vous aviez réalisé en Italie?
Ah oui, ah, ça, c'était très particulier. On avait fait une table.
Dont à quel endroit?
C'était à Milan. Le dessus de la table était composé d'une feuille, enfin formé d'une feuille de caoutchouc tendue. Puis à l'intérieur, on avait mis de l'eau. La feuille était dorée. Et sur l'eau, on avait mis de la poudre d'or. Et dans le fond de l'eau, une bille. Et puis, il y avait un point qui montait verticalement et qui redescendait et qui agitait l'ensemble. Et alors, on obtenait des mouvements d'une complexité inimaginable, d'eau qui tourbillonnait, de billes qui sortaient. Et avec simplement un mouvement, plus le poids de la bille et de l'eau, enfin, les formes ne se reproduisaient pratiquement jamais. On a fait aussi une machine qui était assez simple, c'était une feuille tendue verticale.
La machine que vous avez pour le salon de mai il y a 2 ans?
Non, une autre. Quand on avait fait cette exposition, vous savez, rue des Beaux-Arts. Alors celle-là avait une mécanique extrêmement compliquée et elle réagissait simplement sur le caoutchouc.
Mais pouvez-vous décrire le dispositif réalisé pour le salon de mai il y a 2 ans?
Ah, alors ça, pour le salon de mai, on avait fabriqué une espèce de grosse boule. C'était un essai de structure, cette boule. On avait pris des bandes, je crois que c'était du contreplaqué, et découpées en arcs de cercle. On les refermait sur elles-mêmes de manière à faire des espèces de cornets et on assemblait ces cornets. Comme il fallait un petit peu les tordre pour qu'ils s'assemblent bien, ça décrivait des espèces de cercles. Enfin. Ensuite, on a bouché, si vous voulez, tous ces cercles avec une matière par un procédé de tension. Et on a placé cette boule, qui avait l'air de peser très lourd, dans une feuille de caoutchouc tendue. On a essayé d'imiter au maximum la matière de la boule. Puis il y avait un petit moteur qui faisait légèrement bouger la boule.
L'ensemble était de quelle couleur?
C'était gris, une couleur de métal.
Bon, et on obtenait une chose en mouvement ici.
Oui, c'est-à-dire c'était un mouvement très très faible. Il y avait une pointe qui sortait de la feuille de caoutchouc dans laquelle était posée la boule, qui elle se voyait, sortait assez haut, mais la boule bougeait à peine. C'est-à-dire qu'on pouvait presque croire qu'elle ne bougeait pas. Et ça créait une impression assez bizarre.
Est-ce que vous avez envisagé de mettre chez des particuliers des dispositifs semblables animés d'un mouvement?
Bon, c'est un peu ennuyeux parce que dès qu'on utilise du caoutchouc, ça vit peu de temps, le caoutchouc. Alors, il faudrait changer les feuilles de caoutchouc tous les 2 ans. Et ça paraît assez difficile, ça.
Est-ce que ça vous paraît souhaitable, une œuvre...
mobile?
Oui.
J'en sais rien. Moi, ça ne me plaît pas tellement. J'aime pas beaucoup ça, une œuvre mobile.
Parce que je ne pense pas aux œuvres mobiles au sens où on dit un mobile de Calder, où à la vérité,
Bon, il y a certes mouvement, mais enfin, cela dépend du passage de quelqu'un, d'un violent courant d'air, d'une fenêtre ouverte, de l'ébranlement du plancher dû au pas d'un passant. Mais je pense à différents dispositifs mobiles, comme ceux de chauffeur, par exemple, où on utilise, où effectivement une source lumineuse est mobile et éclaire une sculpture qui elle-même est mobile. Et il y a des moteurs, ce sont des mouvements dus à une influence mécanique.
Oui, d'accord. Mais ça, c'est une question de goût. Moi, ça ne me plaît pas énormément. J'aime mieux considérer une forme mobile, même si j'en ai fait, comme une succession de formes fixes. Et pouvoir arrêter la machine à un moment donné, puis tirer ou mouler une de ces formes, et ainsi de suite. Et puis, au besoin, les accoler les unes aux autres.
Lorsque vous avez fait la boule sur cette surface tendue, on pourrait concevoir justement qu'on ait arrêté le dispositif à des moments divers et que l'on ait fait des moulages, précisément. Et on aurait obtenu toute une série de sculptures qui auraient été assez voisines, mais tout de même différentes. Tandis que lorsque vous aviez envisagé un dispositif qui consistait à provoquer des tensions sur une membrane caoutchouc, sur cette membrane à mettre de l'eau et une bille, là, il n'y a pas de moulage possible. Il n'y a que l'œuvre elle-même que l'on peut conserver animée, si
oui,
on veut l'animer.
Oui, pas forcément, non, parce qu'on peut considérer que cette eau, c'est du plâtre. Évidemment, on perd la moitié du spectacle. Il y a une chose curieuse. Si on prend une feuille qui est animée d'un mouvement assez complexe et qu'on en tire une dizaine de moulages à des moments différents, si on les pose les uns à côté des autres, ça, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je suis persuadé qu'on doit avoir une sensation de mouvement, tout en voyant des choses statiques. Ça, je crois que ça peut être intéressant. Imaginez, par exemple, je sais pas, en architecture, si on veut orner un mur de 200 mètres de long, c'est très difficile de le mouler d'un seul coup. On pourrait très bien envisager une machine qui crée des formes qui seront toujours en rapport et qui seront alignées.
Une famille de pommes.
C'est ça, une famille. Ça, je crois que c'est assez intéressant. Ça m'intéresse beaucoup plus que de voir bouger cette machine. C'est que ça a un pouvoir de fascination sur les gens.
J'ai vu que des visiteurs à l'exposition que vous aviez faite rue des Beaux-Arts étaient très déconcertés par le mouvement et que l'étaient encore plus les sculpteurs du Salon de Mai. Ils étaient beaucoup plus déconcertés, c'est ça qui m'avait très étonné à ce moment-là.
Oui.
C'est que c'était précisément les sculpteurs qui étaient déconcertés devant ce dispositif. Ils étaient plus étonnés que les spectateurs.
Oui, peut-être par manque d'habitude du mouvement, je ne sais pas.
Qu'avez-vous encore fait avec les membranes en caoutchouc?
Ben alors, il y avait la seconde façon aussi d'utiliser la tension, c'était, comme je vous le disais tout à l'heure, de prendre un sac en caoutchouc et puis de l'enfermer dans une espèce de cage. Alors là, on a fait toute une série de colonnes. D'ailleurs, ça se faisait extrêmement rapidement.
Vous remplissiez le sac?
On remplit le sac.
L'ouverture est vers le haut?
L'ouverture est vers le haut. On remplit le sac de plâtre, puis avant que le plâtre ne soit dur, on enfonce des quantités de choses tout autour. Et puis, dès que c'est dur, eh bien, on enlève ça comme une chaussette, et puis on voit ce qui se passe. Enfin, ce qui s'est passé, du moins. Alors ça nous amène à une utilisation très intéressante. Je crois, il me semble maintenant la plus intéressante. Toujours avec cette même équipe, là, on vient de réaliser un grand mur. C'est-à-dire, c'est un grand bas-relief, mais c'est vraiment très grand. Je crois environ 50 mètres de long sur 4 mètres de haut, grossièrement. Et on a pu le faire, d'abord.
Avez-vous fait ce bas-relief?
C'était pour Novarina. C'est pour la Caisse des dépôts. C'est une grande cité.
À quel endroit?
À Viry-Châtillon. C'est dans le centre commercial. La cité s'appelle Silov. Alors, il y avait le problème d'orner ce mur, j'imagine. On avait prévu un coffrage en contreplaqué.
Quelles sont les dimensions du mur?
Bon, c'est un mur, il y a un escalier qui le traverse, mais si on le déplie, on arrive à, je crois, 50 mètres de long sur 4 mètres de haut. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu faire ça pour pas cher. Parce qu'on employait ce procédé, on avait des châssis, enfin, on va dire, on en avait qu'un, qui faisait 8 mètres de long sur 2 mètres de haut. Et puis alors, une équipe d'ouvriers qui se chargeait du coffrage. C'est-à-dire qu'il devait maintenir ce châssis, c'était extrêmement difficile. Je crois qu'il y avait une poussée d'à peu près 30 tonnes sur ce châssis. Alors, eux ont l'habitude de faire des coffrages avec des planches où la pression est beaucoup mieux répartie.
Vous voilà. Aviez tendu un caoutchouc sur le châssis?
Oui, sur un châssis très simple, en planche. Alors, évidemment, c'est un caoutchouc beaucoup plus solide que ce qu'on utilisait pour faire des choses en tension mécanique. Ici, ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait une équipe d'ouvriers qui travaillait. Alors nous nous occupions que des formes. Il arrivait ensuite avec un camion, remplissait de béton. D'ailleurs, les formes étaient obligées de les prévoir parce que le béton a une telle pression qu'on ne peut pratiquement plus intervenir à partir du moment où il est descendu dans le coffrage. Alors, prévoyez grossièrement d'avance. Si ensuite, on peut avoir quelques intentions, mais plutôt de détails. C'était pas mal parce que c'était assez angoissant. Parce qu'après tout, il y avait tout de même pas mal de mètres cubes de béton dans ces châssis. Et si jamais le châssis crevait, enfin, ça tournait au drame. Et il y a une chose qui, moi, m'a gêné. C'est l'impossibilité de dépasser la tension. C'est-à-dire que, quoi qu'on fasse, on a toujours présent cette notion de tension. Et je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu inhumain. On sent un peu trop les mathématiques. Alors à ce moment-là, j'ai essayé des tas de choses justement pour briser cette tension. Alors la première chose qu'on pouvait envisager, c'est de faire des trous. Alors malheureusement, c'est pas possible parce que des trous sont des trous arbitraires. Ça ne donne pas grand-chose. Ensuite, j'ai essayé par exemple de mettre, au moment du moulage d'une feuille tendue, des matières molles. Enfin, si vous voulez, qui avaient la même densité, la même consistance que du plâtre et qui, elles, ne durcissaient pas. Puis de les enlever ensuite. Le résultat n'était pas non plus extraordinaire. On tombait un peu dans des aspects, si vous voulez, d'arbres rongés par des vers. Enfin, ça n'a rien donné d'extraordinaire. À ce moment-là, j'ai rencontré un produit miracle, assez curieux. Alors, imaginez par exemple qu'on a devant nous deux vers remplis chacun d'un liquide, on les verse tous les deux dans un pot un peu plus grand, on remue le tout, il commence par ne rien se passer. Et brusquement, cette matière gonfle et arrive, je ne sais pas, 15 ou 20 fois son volume. C'est une mousse. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette matière arrive à être dure, en fin de polymérisation, si vous voulez, et qu'elle contient une énergie à l'intérieur d'elle-même. Alors, j'ai d'abord essayé de l'utiliser en la laissant gonfler à l'air libre. Ça n'a pas très bien marché, c'était d'abord très incommode à employer, puis le résultat n'était pas très intéressant. Ensuite j'ai réintroduit cette notion de champ, mais alors d'une façon différente. Ça se passe d'une façon très simple, on prend une toile, on la met par terre, on fait le mélange dont je vous parlais, et on le verse sur la toile. Et ensuite on pose dessus un écran. Alors cet écran, ça peut être beaucoup de matière. Moi, je me sers plutôt de polyéthylène. C'est assez souple, c'est assez... Car il ne se passe toujours rien. Puis brusquement, la matière commence à monter. Alors là, on peut commencer à intervenir. On peut la promener, son idée. On peut la raplatir. Elle remonte, mais un peu moins. On peut la chauffer, ça la fait gonfler plus vite. Puis là, ça se décompose au point de vue possibilité de fabrication en plusieurs stades. Par exemple, le premier stade... On a entre les mains quelque chose de très mou. Alors on peut, avec cet écran qui est dessus, faire, je ne sais pas moi, des plis, même si vous voulez, des effets de drapé. Quand la matière commence à gonfler à l'intérieur de ces drapés, par exemple, ils cessent d'être des plis. Ils deviennent des volumes. Alors à ce moment-là, ça, je ne sais pas, ça peut durer peut-être 2 ou 3 minutes. Ensuite, la matière commence à prendre une consistance. Alors là, on peut intervenir, mais d'une façon beaucoup plus brutale. On peut prendre la toile et brusquement, enfin non, je veux pas dire, enfin la matière qui est sur la toile, la faire brusquement déraper de 50 cm par exemple, ou la replier sur elle-même. Et après, il y a un moment où on ne peut plus bouger l'ensemble. Alors reste encore certains endroits sur lesquels on peut intervenir en les rechauffant. Et alors cette matière peut être colorée dans la masse. On peut mettre des couleurs par-dessus qui se bloquent dans la matière, et on obtient un certain résultat.